Séisme électoral en Catalogne, les élections du 12 mai et la fin du processus d'indépendance. Ces élections ont également été très intéressantes comme reflet de la vague conservatrice qui se lève dans toute l'Europe et qui se traduira sans doute dans les résultats des prochaines élections européennes. Dans le Parlement catalan sortant, les forces de gauche totalisaient 83 sièges contre seulement 52 pour les forces de droite, tandis que dans le nouveau Parlement, l'équilibre, 72 sièges pour la gauche, 63 pour la droite, sera beaucoup plus serré. En tout cas, la lassitude à l'égard du processus, qui a entraîné jusqu'à 5 élections anticipées en 12 ans, a joué un rôle évident dans le recul des partis prônant la sécession de la Catalogne de l'Espagne, qui sont passés de 74 à 61 sièges et de 51% à 43% des voix. Les électeurs favorables à l'indépendance ont reçu pendant plus d'une décennie des promesses non tenues de la part de leurs leaders sur l'imminence de la sécession et, cette fois-ci, ils ont décidé de rester chez eux dans une bien plus grande mesure que les partisans du maintien de l'union avec l'Espagne. Les données de participation brute montrent clairement ce phénomène. Les élections de 2021, tenues en pleine pandémie, avaient un taux de participation très faible, à peine 51%. Cette fois-ci, bien que la participation n'ait pas beaucoup augmenté, à peine 5 points, une fois compté le vote des résidents à l'étranger, l'augmentation a été complètement asymétrique, tandis que les partis indépendantistes ont à peine augmenté leur nombre de voix, les partis unionistes en ont tous ensemble gagné plus de 300 000. Il est difficile de faire comprendre à quel point cela est une anomalie en Catalogne, où pendant des décennies, il y a eu un comportement électoral dual entre les élections générales, avec plus de participation et de meilleurs résultats pour les partis espagnols, et les élections régionales, avec moins de participation et de meilleurs résultats pour les partis nationalistes. Ces élections ont été la première occasion où ce schéma de comportement s'est rompu, et le vote unioniste s'est mobilisé plus que le vote indépendantiste, au point de mettre fin à la majorité absolue dont bénéficiaient les indépendantistes au niveau régional depuis 40 ans, toujours favorisée par une répartition des sièges entre les quatre provinces catalanes au détriment de Barcelone, la moins indépendantiste. Le nouveau Parlement est d'une symétrie presque parfaite, chaque parti espagnol a son équivalent catalan, de l'extrême droite à l'extrême gauche. La différence réside dans le poids relatif de chaque idéologie dans chaque bloc, et dans la mesure où ces forces prônent ou non de tourner la page du processus. Ainsi, dans le bloc unioniste, le Parti socialiste de Catalogne, frère du PSOE espagnol, qui prône clairement un cadre de détente politique, défendant la grâce voire l'amnistie pour les leaders indépendantistes, a un coût élevé pour le parti dans le reste de l'Espagne, a pleinement récupéré sa position de leader dans ce noyau d'électeurs, qui était très contesté lors des derniers cycles électoraux, et accapare 42 des 74 sièges unionistes. Le reste est divisé entre trois forces, un parti populaire, conservateur, beaucoup plus réfractaire à tout accord avec l'indépendantisme, qui multiplie par 5 ses sièges, résultat moins glorieux qu'il n'y paraît, car il partait des pires résultats depuis 1980, il n'avait que 3 sièges dans le Parlement sortant, et revient plus ou moins à ses résultats pré-processus. Ce qui est peut-être le plus frappant dans le résultat du PP est le fait que sa croissance électorale vient totalement de l'absorption du parti centriste Ciudadanos, qui était devenu la première force il y a à peine 6 ans et qui disparaît maintenant complètement. En revanche, il a été incapable d'ouvrir la moindre brèche dans Vox, le parti d'extrême droite et radicalement anti-sécessionniste, qui non seulement n'a pas cédé de position, mais a gagné 30 000 voix. Le dernier parti dans l'espace unioniste est la coalition de gauche commune Sumar, encore plus favorable que les socialistes à la détente et qui inclut même quelques politiciens indépendantistes en son sein, son candidat aux élections européennes, Jo Massen, par exemple. Les résultats de cette force politique depuis le début du processus en 2012 ont été de plus en plus négatifs, enchaînant 4 reculs électoraux consécutifs, au point qu'elle atteint maintenant ses pires résultats depuis le milieu des années 1980. En tout cas, le solde entre les partisans de la détente ou de la fermeté dans le camp unioniste est clairement déséquilibré en faveur des premiers, 48 sièges pour les socialistes et l'extrême gauche contre 26 pour les partisans du PP et de Vox. Du côté indépendantiste, l'équation est inversée, le parti leader dans cette zone est Jean, dirigé par l'ex-président, en fuite ou en exil, selon que l'on parle à un unioniste ou à un indépendantiste, Carles Puigdemont, qui avait averti que s'il n'obtenait pas un résultat lui permettant de revenir à la présidence catalane, il sortirait de la politique. Jean, du moins rhétoriquement, mais pas dans la pratique, continue de maintenir un discours favorable à l'unilatéralisme sur la question de la sécession. Le résultat du parti, 35 sièges, 3 de plus qu'en 2021, a été correct mais a été accompagné d'un véritable effondrement de ses hypothétiques partenaires de gouvernement, R, le parti de centre-gauche indépendantiste qui gouvernait en minorité et seule la généralité, a perdu plus d'un tiers de ses voix et de ses sièges, et la CUP, le parti d'extrême-gauche qui a permis, par une manœuvre politique complexe, l'élection de Puigdemont à la présidence en 2016, a subi une défaite encore plus dévastatrice, perdant plus de la moitié de ses sièges. Et comme si tout cela ne suffisait pas, le ressentiment face à l'échec du processus a provoqué l'apparition d'un parti d'extrême droite indépendantiste appelé Alliance Catalane qui est entré au Parlement avec 2 sièges, mais qui est passé à quelques milliers de voix d'en obtenir plus de 5, ce qui lui aurait permis d'avoir son propre groupe parlementaire. Le résultat est que les partisans du maintien d'une ligne indépendantiste dure, Jeun, CUP et AC, totalisent 41 des 61 sièges dans ce bloc, tandis que les plus pactistères, n'en comptent que 20 et ont déjà annoncé leur intention de passer à l'opposition pour panser leur plaie après 3 cycles électoraux désastreux, municipal et général en 2023, et régional maintenant, en 2024. Le scénario politique, comme on peut le voir, est complexe. Car laisse Puigdemont, piégé par sa promesse d'abandonner la politique s'il n'atteignait pas la présidence, défend un gouvernement de coalition entre Jeun et R avec un soutien externe de la CUP qui n'atteindrait pas 59 députés, la majorité au Parlement est de 68, et exige que le PSC s'abstienne lors de son investiture pour pouvoir former un gouvernement minoritaire, avec la menace implicite de faire tomber le PSE au Parlement espagnol si on ne lui permet pas d'obtenir gain de cause. Cependant, le PSC, qui est dans l'opposition depuis plus de 13 ans, et qui jouit d'une autonomie notable par rapport à son homologue espagnol, a déjà clairement indiqué que cela n'arrivera pas, et qu'en tant que vainqueur des élections, et seul parti capable de conclure des accords entre blocs, il va soit former un gouvernement de coalition de gauche avec les communs et R, qui totaliserait exactement 68 sièges, la majorité absolue du Parlement, soit, si R persiste dans son intention de passer à l'opposition, obtenir de cette dernière un vote favorable à l'investiture du candidat socialiste et ensuite gouverner avec des accords à géométrie variable à gauche et à droite, sans exclure même la possibilité de conclure un accord avec Jeun, bien qu'un tel accord implique la sortie de Carles Puigdemont de la vie politique. En résumé, sans majorité indépendantiste au Parlement, il est évident que le processus, après une décennie de grandes tensions politiques, est mort, vaincu par plusieurs facteurs, parmi lesquels le désir des Catalans que leurs politiciens s'occupent de choses plus concrètes comme le problème pressant du logement ou celui de la sécheresse. Nous verrons si les forces indépendantistes acceptent ce fait ou restent piégées dans l'illusion d'une sécession toujours à portée de main mais jamais atteinte.